Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez La Librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle chronique de la librairie des étudiants. Quelles sont les premières couleurs et les premiers espaces du pionnier de l'art abstrait? Nous ouvrons aujourd'hui un récit du peintre Vassili Kandinsky, nommé « Les Marches », publié aux éditions Verdier dans la collection Slovo depuis octobre 2025. Un texte traduit du russe par Catherine Perel. Amis auditeurs et auditrices, sortez vos marque-pages de l'art abstrait, nous ouvrons aujourd'hui un récit de Vassili Kandinsky. À tout juste 3 ans, le petit Vassili Kandinsky découvre la puissance fascinante des couleurs. Dans son enfance, il est entouré des ocres jaunes, du vert, du rouge carmin ou encore du noir et du blanc. Avec seulement ces quelques couleurs, le petit Vassili Kandinsky appréhende le monde et l'observe tourner avec tous ces pigments qui le composent. Malgré le déménagement de ses parents en Italie, Vassili se laisse bercer par le cœur des couleurs, comme il le nomme lui-même. En grandissant, Kandinsky voyage aux quatre coins de l'Europe. De l'Italie à l'Allemagne, quand ce n'est pas le long des pavés de Moscou, terre des origines de la famille Kandinsky. Ces voyages sont pour le jeune homme des étapes pour comprendre et découvrir le monde à travers les couleurs. Il observe depuis les berges, depuis les plaines, depuis les rues, car la couleur est puissante aux yeux de Kandinsky. Une nouvelle révélation se fera pour le jeune homme lorsqu'il apposera ces mêmes couleurs sur des toiles. Un nouveau monde s'ouvre alors à lui, sans frontières ni règles. Un monde de liberté à travers la peinture que Kandinsky investira pleinement. Le prélude de Lohengrin, une œuvre de Wagner, extrait de l'album Lohengrin, sorti en 1994 dans les bacs. La librairie des étudiants, Radio Campus Grenoble 90.8. Aujourd'hui, nous ouvrons le récit Les marches du peintre Vassili Kandinsky, publié dans la collection Slovo des éditions Verdier depuis octobre 2025. Ce texte est traduit du russe par Catherine Perel, un texte publié initialement en 1918, une publication ici réduite, amputée d'images qui accompagnaient le texte lors de sa publication originelle. C'est un texte qui se répond à lui-même, posant des questions et des interrogations de jeunesse qui trouve des réponses à sa fin, comme si la maturité offrait une meilleure compréhension des arts et de la jeunesse passée. À travers ce récit autobiographique que fait Vassili Kandinsky, nous découvrons une rencontre entre un jeune homme et les arts. Cette première rencontre avec les couleurs se fait au contact des villes comme Munich, qualifiée de vieille ville, ou encore de la ville de Moscou. Chacune des villes emporte avec elle une métaphore vivante qui incarne les couleurs. Les bâtiments sont personnifiés, incarnant à leur tour quelque chose et donnant un matériau spécifique au futur peintre. Au fond, dans ce tableau aussi, j'ai cherché à retrouver le moment qui était et sera toujours le plus merveilleux à Moscou. Le soleil est déjà bas et a atteint la force maximale à laquelle toute la journée il a aspiré, que toute la journée il a attendu. C'est un tableau qui ne dure pas longtemps. Encore quelques minutes et la lumière du soleil s'empourprera sous l'effort. Encore et encore deviendra d'abord d'un rouge froid, puis de plus en plus chaud. Le soleil fond Moscou en un seul bloc qui sonne comme un tuba et qui étreint l'âme d'une poigne ferme. Non, ce n'est pas l'heure de cette unité rouge qui est la plus belle. Ce n'est que le dernier accord de la symphonie qui développe dans chaque ton la vie suprême, qui fait résonner tout Moscou comme le fortissimo d'un énorme orchestre. Les immeubles roses, mauves, blancs, bleu sombre ou clair, pistache, rouge feu, les églises, chacune comme un champ séparé, l'herbe d'un vert rageur, les arbres qui bourdonnent tout bas, ou bien la neige chantant selon mille modes, ou encore l'allegretto des branches et rameaux nus, l'anneau silencieux, inébranlable, raide, rouge de la muraille du Kremlin, et au-dessus, dominant tout, tel le cri du triomphe d'un Alléluia qui aurait oublié le monde, la silhouette blanche, longue, à la fois élancée et austère du clocher d'Ivan le Grand. Et en haut de son long cou, tendu vers le ciel, dans une mélancolie sans fin, la tête dorée de la coupole, qui est, parmi les étoiles dorées, argentées, colorée des autres dômes qui l'entourent, le soleil de Moscou. Les marches Vassili Kandinsky, page 15-16. Pour le peintre, c'est une chance et une aubaine de peindre au moment où les villes s'embrasent sous leur ciel rouge. Kandinsky s'inspire de la nature, de ce qu'il voit, faisant fi de ses émotions. Il y a pour lui deux grands courants d'inspiration, la nature et d'autres peintres. Polenov, Monet, Répine, Levitan ou encore Rembrandt pour ses toiles de clair-obscur. Pour Kandinsky, la peinture doit se faire en observant le monde et doit aussi s'inscrire dans ce qui est immobile, voire presque futile. Les détails dans la peinture sont tout aussi important que le reste de la toile pour faire vibrer le spectateur. De cette manière, Kandinsky cherche ses propres codes de création qui donneront plus tard naissance à l'abstrait dont il sera bien sûr le maître. Pour créer, il faut aussi s'affranchir des codes de tout ce qui est déjà établi. On pourrait voir en Kandinsky et l'abstrait ce que Victor Hugo a fait avec le romantisme et le théâtre dans les mouvements littéraires. La peinture abstraite, qui sera accouchée par Vassili Kandinsky, s'oppose à la peinture classifiée, comme « objectale », entre guillemets, pour reprendre les mots du texte du jour. Le récit Les Marches, c'est aussi une grande confession de la part de Vassili Kandinsky, la confession d'un hypersensible. L'art se fait pour lui par forme de souffrance, il lui faut éprouver quelque chose pour pouvoir composer sa peinture. Ce qui peut surprendre, car Kandinsky affirme qu'il fait fi des émotions extérieures à lui, mais il suit les siennes pour peindre. Lorsqu'il peint, il peut éprouver de l'apaisement, comme si peindre était pour lui une forme d'urgence qu'il fallait évacuer nécessairement. Dès lors, il se coupe du temps qui passe et des lieux où il est pour uniquement se consacrer à son art. Ce qui nous fait demander aussi si la peinture s'inscrit en dehors du temps, à la fois pour le peintre, pour ce qui est représenté et pour le spectateur. Une peinture qui se fait dans l'urgence de ses sentiments internes, une réponse à un choc pour Kandinsky dans l'instant présent et devant tout ce qui est amené à disparaître. Pour le peintre, l'une des choses les plus importantes reste la position du spectateur devant la toile. Le spectateur doit se mouvoir dans la peinture. C'est une façon voulue par Kandinsky de faire réfléchir le spectateur sur ce qu'il voit, de s'imaginer dans la toile pour mieux comprendre, pour mieux se représenter ce qu'a voulu dire le peintre. Lorsque vous regardez une toile de Kandinsky, imaginez-vous entre les lignes. Les années passant, j'ai compris que le travail avec le cœur qui bat la chamade, une sensation d'oppression dans la poitrine et de là une douleur dans les côtes, une tension de tout le corps ne donne pas des résultats irréprochables. À ces élans, durant lesquels tout contrôle, toute critique de soi-même disparaissent parfois totalement, pendant de longues minutes, succède immanquablement une chute rapide. Cet état excessif peut, dans le meilleur des cas, durer quelques heures. Il peut convenir pour un petit travail, il convient parfaitement pour les esquisses ou les petites choses que j'appelle improvisation, mais il ne suffira jamais pour de grandes œuvres exigeant un élan régulier, une tension opiniâtre ne faiblissant pas durant des jours entiers. Le cheval porte le cavalier avec vigueur et avec fougue, mais c'est le cavalier qui dirige le cheval. Le talent élève l'artiste vers de hauts sommets avec vigueur et avec fougue, mais c'est l'artiste qui dirige le talent. Peut-être, par ailleurs, l'artiste parvient-il, mais seulement de façon partielle et fortuite, à faire naître en lui-même, artificiellement, ses enthousiasmes. Mais il connaît le caractère de ses élans apparus contre sa volonté. Ses nombreuses années d'expérience lui permettent de retenir ces instants en lui, ou bien de les refouler totalement, de façon provisoire, afin qu'ils réapparaissent presque à coup sûr, plus tard. Bien évidemment, ici encore, une absolue précision est impossible. Les marches, Vassili Kandinsky, page 36. Dans les pages que nous propose ce récit, Kandinsky fait aussi la part belle aux artistes, quels qu'ils soient. Il invite les artistes à exercer leurs dons, à ne pas censurer leur sensibilité et leurs envies de faire et de créer. La peinture de Kandinsky est un berceau, celui des arts et de la nature, où chaque spectateur est amené à se perdre, à épouser l'abstraction des représentations graphiques pour faire de la toile la sienne. Comme si nous entrions marche après marche entre les bordures des cadres, avec pour guide nos émotions et les seuls mots de Vassili Kandinsky. Ainsi va la littérature et se termine cette nouvelle chronique de la librairie des étudiants Les Marches. C'est le titre de notre récit du jour que nous avons ouvert ensemble, signé par le peintre Vassili Kandinsky aux éditions Verdier. Un texte qui donne un nouvel éclairage sur la compréhension de toute l'œuvre du maître de l'abstrait. Mercredi prochain, nous parlerons de transmission entre les générations. D'ici là, la capsule auditive de notre chronique du jour est à retrouver en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8, à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, de vous fondre dans les tableaux que vous regardez, et surtout, le plus important, d'avoir de belles lectures.